Bonjour, chères auditrices et chers auditeurs. Alors, nous allons parler musique ancienne avec le festival Musique ancienne en Pic-Saint-Loup et Gorge de l'Hérault. Et pour ce faire, nous avons contacté Sylvain Sartre, le directeur artistique de ce festival. Bonjour, Sylvain Sartre.
Oui, bonjour.
Donc, vous êtes à Perpignan, on va rappeler, vous enseignez la flûte baroque notamment à Perpignan. Donc, vous êtes entre deux cours à peu près, d'après ce que j'ai compris.
Voilà, c'est ça. Les journées sont chargées.
Les journées sont bien remplies. Alors, le festival donc Musique ancienne en Pic-Saint-Loup et Gorge de l'Hérault, qui se déroule sur deux week-ends, quelle est la ligne que vous suivez ou quelles sont les ambitions de ce festival ?
Ce festival, c'est un festival qui a lieu sur le territoire, donc le majestueux territoire du Pic-Saint-Loup et des Gorges de l'Hérault, où on connaît évidemment les paysages grandioses et également le patrimoine assez riche et magnifique, patrimoine ancien. Et l'idée, c'était de partir à la rencontre de la population, en investissant chaque année quelques lieux qu'on choisit et qui tournent au fil des ans pour proposer donc une résonance de ces lieux avec la musique ancienne. Donc c'est des lieux souvent construits au XIIIe, XVe, XVIIe siècle, et donc on essaye de les animer avec des propositions artistiques de concerts dans les répertoires de leur époque de construction.
Voilà, oui, il y a toujours, c'est la même chose pour le festival de Maglone, hein, puisque c'est les muses en dialogue qui chapeautent tout ça. Il y a cette double vocation qui est dans l'ADN des manifestations que vous proposez, hein, qui sont le patrimoine musical, mais aussi architectural.
Exactement.
Voilà. Oui, alors là, ce sera, il y a le château d'Assas, il y a l'église de Gignac, voilà, il y a différents lieux qu'on va évoquer. Il me semble ce festival, vous l'avez mis un peu comme souvent d'ailleurs, sous le patronage de l'intergénérationnel, non ?
Oui, alors on essaie de garder cette ligne, d'offrir la possibilité à des jeunes artistes de se produire, en même temps des artistes confirmés aussi. C'est toujours important de mêler les générations. On est évidemment plus riche quand on se mélange. On garde un petit peu cette ligne directrice, effectivement.
D'accord. Alors, on va évoquer tout simplement les concerts, et puis on pourra s'attarder un petit peu sur ce qui est proposé. Alors, premier concert, ça va être donc au château d'Assas, hein, voilà, premier lieu de patrimoine. Ça va être ce vendredi, mais je crois que les places sont déjà toutes vendues, non ?
Alors oui, on a été un peu victime de notre succès. Alors bon, comme c'est un festival aussi qui propose des places à un tarif unique relativement modeste, ça participe aussi au succès du festival. Donc le premier concert, c'est ce soir. Donc le château d'Assas, qui est un château qui appartient à une famille privée, la famille de Mangel, qui a la gentillesse régulièrement de nous proposer d'organiser un concert. Donc le château est ouvert à cette occasion, donc c'est assez déjà magique de rentrer dans un château qu'on ne peut pas visiter en dehors de ces occasions-là. Et puis le château conserve un clavecin historique mondialement connu, un clavecin qui date du XVIIIe siècle et que les clavecinistes aiment beaucoup jouer, parce qu'évidemment un instrument d'époque a des sonorités particulières. Et donc on a décidé de confier à Pierre Antaille, grand musicien, l'ouverture du festival, en sachant que cette année on réalise un hommage particulier à un autre claveciniste qui s'appelait Scott Ross, qui est décédé il y a 35 ans, assez jeune, qui était un génie de son instrument et qui a dans sa brève carrière enregistré et proposé des versions mémorables d'un certain nombre de répertoires. Et donc on a décidé de lui rendre hommage cette année, donc avec ce premier concert de Pierre Antaille qui va proposer un concert surprise. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de programme établi, il va annoncer au fil du concert les pièces qu'il joue, et il va suivre un chemin artistique qu'avait suivi Scott Ross il y a 35 ans. Donc c'est ce concert qui aura lieu ce soir. Donc bon, on ne va pas en dire beaucoup plus parce que sinon on va créer de la frustration puisque le concert est plein. Mais voilà, c'est une belle entrée en matière de ce festival.
Non, mais ça montre aussi la démarche dans laquelle vous êtes, hein, la type de programmation. Hein. Alors là, voilà, Scott Ross, donc c'est la première génération, la première génération des baroqueux qui a rouvert le baroque au grand public avec des interprétations, comme on dit aujourd'hui, informées.
Oui, exactement.
Voilà, c'est la même génération que Jordi Savall, à peu près, je crois, hein, qui est le président d'honneur du festival. Donc on a un des précurseurs. Il y en a eu d'autres avant, il y a eu des Vanda Lodowska ou des gens comme ça. Mais
c'est cette génération qui a
rouvert
à ses répertoires, ouais. Qui était assez dénigré par le monde de la musique au milieu du XXe, parce que c'est un répertoire. Moi, j'ai une prof de formation musicale il y a quelques années, quand j'étais gamin, qui me disait « Non, on ne fait pas de musique baroque parce que c'est trop facile. » Voilà, c'est un peu l'image qu'avait la musique ancienne. C'était une musique, évidemment, harmoniquement moins élaborée que la musique plus tardive. Mais en fait, on se rend compte aujourd'hui de la richesse de tout ce qu'elle a pu apporter et compter dans le mouvement musical. Si aujourd'hui on a une période romantique, c'est bien parce que la musique baroque était présente deux siècles avant. Donc voilà, effectivement, ils ont participé à ce renouveau.
Oui. Et puis on a découvert avec le temps les au début, je me rappelle, c'était les mauvais musiciens font de la musique baroque. C'était quasiment
oui,
ça.
Oui, exactement.
Et puis il y a d'autres paramètres. Oui, il y a pas l'harmonie est plus simple, mais il y a toute une partie non écrite qui est beaucoup plus importante que dans les musiques qui vont suivre.
Oui, ça demande, c'est pour ça qu'on parle de répertoire historiquement informé, c'est-à-dire qu'on est obligé de s'intéresser à de nombreux paramètres pour comprendre et pour jouer cette musique, des paramètres politiques, historiques, des paramètres aussi d'écriture de l'époque, de connaître un petit peu les règles de composition, comment on jouait. Il y a beaucoup c'est le siècle des Lumières, donc il y a beaucoup d'écrits à l'époque. On aime bien mettre sur le papier les méthodologies, les premières encyclopédies. Donc voilà, on va se nourrir de toute cette richesse d'informations pour nourrir une interprétation.
Alors, et puis, donc vous continuerez à parler de la figure de Scott Ross, hein, de ce pionnier, on peut dire, à côté de Gustave Leonhardt et d'autres, le 12 octobre, donc demain, hein, ça se passera à l'atelier de Martine Argeliès.
Alors non, il y a un petit changement.
Ah, il y a un petit changement. Ah oui, c'est vrai que j'avais vu, la date a changé.
Non, la date n'a pas changé.
Dans le jour Non, pardon.
Nous ne serons pas chez Martine.
Ah, d'accord. Parce que le lieu, pardon.
Victime de notre succès, avons décidé de délocaliser et donc d'aller dans une belle salle que nous prête gentiment la Cité des Arts, donc le nouveau conservatoire de Montpellier. Donc on sera samedi, donc là c'est entrée gratuite. Samedi à 16h à la Cité des Arts pour une conférence organisée par Nicolas Pomsel, qui est un producteur radio, qui a bien connu Scott Ross. D'accord. Et qui va nous proposer une petite rétrospective et des documents inédits, qu'ils soient vidéo ou audio de Scott Ross. Donc voilà, à 16h samedi, donc c'est gratuit, par contre il faut réserver sur notre site internet.
Voilà,
les places sont limitées.
J'allais vous demander cette précision, donc il faut toujours réserver, même si le lieu est un petit peu plus grand. Voilà, donc conférence le 12 octobre, c'est à 17h donc toujours ?
À 16h.
À 16h, tout a bougé.
Voilà. A bougé.
Et puis le week-end ne sera pas terminé, puisque le 13 octobre, alors on va être dans le répertoire très anglais, hein, la musique renaissance et baroque anglaise est très importante, avec un concert qui va avoir lieu à Gignac, qui s'appelle Three Violins for Three Kings, donc trois violons pour trois rois. et c'est l'ensemble Clématis. Alors, vous pouvez nous en dire un petit peu plus. Je crois qu'il y a quelqu'un qui va les accompagner à la basse continue que vous connaissez bien.
Oui, alors il y en a plusieurs que je connais bien. Donc c'est un ensemble qui s'est créé en Belgique à l'initiative de Stéphanie Defailly, qui est violoniste. C'est une histoire un petit peu intéressante de cet ensemble. Tout d'abord parce qu'il est un petit peu chaperonné par un grand monsieur de la discographie qui possède un label discographique qui s'appelle Rich Aircar, qui a fait de nombreux enregistrements, et il se trouve que Jérôme Lejeune a une église dans le Minervois, donc pas très très loin, et la plupart des enregistrements de ce label ont lieu là-bas, et Clématis enregistre régulièrement dans le Minervois. Donc en fait, déjà, il y a cette proximité un peu, et puis et c'est vrai que c'est un ensemble qui s'intéresse beaucoup au répertoire pour violon, et en Angleterre, si la viole et les consortes de viol étaient très présents, évidemment, comme dans d'autres pays, la musique italienne a infusé un petit peu partout, et voilà, c'est ce que nous propose l'ensemble Clématis, une mise en abîme dans l'Italie, dans l'Angleterre italienne, et comment le violon a pu jouer et se développer en Angleterre à plusieurs époques. Donc il y a un ensemble qui sera assez fourni, et donc des musiciens que je connais particulièrement. Donc évidemment, il y a Margot Planchard qui sera à la viole et qui partage avec moi la direction artistique des Ombres. Il y aura aussi Brice Sailly qui avec qui on travaille très régulièrement aux Ombres et qui est un peu notre coach référent du jeune orchestre baroque européen. Et puis, et là, c'est un petit peu plus personnel, il y a une violoniste, Amandine Solano, que j'ai connue presque enfant, qui a fait ses études à Perpignan il y a quelques années, et qui est un peu le pilier aussi de cet ensemble Clématis, qui est devenu une grande violoniste. Donc voilà, c'est tous ces liens qui m'ont intéressé aussi dans cette programmation cette année. Et donc voilà, ils vont aborder le répertoire donc anglais au travers de du style italien. Donc on entendra du Dowland, du Jenkins, du Matteis, du Purcell. Voilà, un très beau programme. Donc ça sera à Gignac le 13 octobre. Il reste des places, c'est à 17h.
Voilà, donc on a entendu les noms. Il y en a certains qu'on connaît bien, comme John Holland et puis Henry Purcell, hein, ce qui est mentionné dans le programme, avec des points de suspension, donc il y en aura certainement d'autres. Et puis il y a j'ai découvert ce compositeur italien, violoniste italien qui s'est installé en Angleterre, donc Nicolas Matteis.
Oui.
Voilà, donc à découvrir, il y a toujours un mélange dans ces programmes de choses familières, parce qu'on, oui, c'est des compositeurs dont on connaît le nom, et puis de choses de découverte qui nous amènent à entendre toute la diversité de ce répertoire.
Oui.
Allez, on va passer au week-end suivant. Le 19 octobre, ce sera... Alors, j'ai pas précisé, c'est à 17h hein, à Gignac. Le 19 octobre, donc le samedi, ce sera à 17h aussi. Cette fois, ce sera à Saint-Jean-de-Buège. Et on sera encore avec du reste dans le répertoire anglais.
Mais alors là, pour le coup, plus anglais qu'à Gignac, où on est plutôt tourné vers l'Italie. Là, on est vraiment vers l'Angleterre pure, avec deux musiciens que j'ai eu la chance de croiser dans ma carrière. Monica Pustilnik, qui est une formidable théorbiste, qui travaille beaucoup avec la Capella Mediterranea de Leonardo García Alarcón. Et Lisandro Abadi, qui est baryton, que j'ai pu croiser, pareil, lors de création avec les Ombres, qui est aussi un chanteur assez incroyable. Et donc, ils proposent tous les deux un programme de Mad Songs. Alors, les Mad Songs, c'était un répertoire anglais de musiciens qui se sont intéressés à mettre en musique des poèmes de librettistes anglais de l'époque. Et donc il y a vraiment un parallèle assez intéressant au niveau des affects entre la musique des mots et la musique des notes. Donc on aura un programme très poétique. Et puis en plus, la poésie sera renforcée puisqu'on prendra notre voiture et on ira dans cette magnifique route qui nous emmène à Saint-Jean-de-Buège, donc dans une belle petite église romane, pour un, voilà, pour un concert assez intime. Il manquera plus que les bougies, j'ose dire. Et donc ça sera samedi, effectivement, 19 octobre à 17h.
Voilà, et puis je vois dans le programme, c'est peut-être important de le souligner, Lisandro Abadi, bah, il fait partie des interprètes qui ne se limitent pas au baroque, hein, c'est pas il ne fait pas que du baroque, puisque je vois qu'il chante aussi des compositeurs comme Victor Ullmann, donc là on est au début du XXe siècle.
Oui, alors les musiciens aiment bien, les musiciens aiment bien ne pas rester enfermé dans une époque, et c'est le cas pour moi aussi. Voilà, c'est important de se nourrir d'autres répertoires, et c'est vrai que Lisandro, il est extrêmement curieux, il a une grande culture, et donc il ne s'empêche pas d'aller lorgner vers ses répertoires plus tardifs, ce qui donne du corps aussi à son interprétation des musiques anciennes.
Bien, et puis alors, dernier concert de ce festival, ce sera le dimanche 20, toujours à 17h. Hein. Alors, ça se passera à Saint-Martin de Londres, hein, dans l'église romane. C'est un lieu dans lequel vous allez assez souvent, je crois. Hein.
Oui, bah c'est vrai que le festival est itinérant, et puis c'est important aussi d'avoir des ancrages sur le territoire, pour permettre aussi de créer des rendez-vous. Et c'est le cas un petit peu de Gignac et de Saint-Martin-de-Londres, deux villes dans lesquelles on va chaque année. Saint-Martin-de-Londres, cette année, avec un programme qui va clôturer le festival. Que j'ai voulu particulier, déjà avec l'effectif. En général, on n'accueille pas ce genre d'effectif. Ils vont être assez nombreux, ils seront une dizaine au plateau. Et aussi un programme qui va mêler les répertoires. Et dans une époque où on entend on vit beaucoup de conflits, en dehors de notre. Enfin, en Europe, mais aussi en dehors de l'Europe, j'avais envie d'un concert un petit peu œcuménique, ode à la paix, avec l'ensemble Canticum Novum, qui est spécialiste de ce mix entre les cultures. Ils aiment bien aborder les répertoires de musique ancienne, qu'ils soient occidentaux, mais aussi orientaux, afghans, turcs, persans, arabes, séfarades. Et donc, ils proposent un concert autour de la paix. Mêlant donc les répertoires, vous savez que l'Espagne était un carrefour, au 14e et 15e, un carrefour de culture, et voilà, il propose de mettre à côté des Cantigas de Santa Maria, donc un répertoire sacré espagnol, des chansons séfarades, avec un programme avec des musiciens aussi qui viennent de pas mal de pays, avec des instruments aussi qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Voilà, vraiment un programme très festif, et en même temps très coloré et très pacifique.
Voilà, on va donner le titre du programme parce qu'il dit beaucoup des intentions. Hein. Tout simplement, le même mot dans trois langues, Paz, Salam, Shalom. Donc,
Exact.
on est avec la paix, hein, c'est cette
La paix.
volonté de paix qui est ô combien d'actualité. Comme quoi la musique baroque peut nous parler du présent très fortement. Bien, ben merci beaucoup, Sylvain Sartre, et puis on se retrouvera prochainement, enfin dans quelques mois, pour les journées européennes de musique ancienne. Ça c'est à quelle date déjà? C'est au
Oui, bah
printemps?
c'est toujours au solstice d'été, donc on est au 21 mars, voilà,
Voilà, c'est
aux alentours
ça.
du 21 mars, avec des événements
C'est
qu'on va construire.
le jour du printemps. Bien, en tout cas, bon festival, bon concert, et puis on espère que vous aurez du monde.
Ben, merci beaucoup et puis bonne journée.
Bonne journée à vous.